La grande nouvelle cette semaine, c'est le Japon qui monte son taux d'intérêt directeur à 0,1% après les avoir laissés à moins 0,1% depuis 17 ans. Alors oui, je sais, dit comme ça, une hausse de 0,2%, ça n'a pas l'air très spectaculaire. Pour autant, il faut y regarder de plus près pour comprendre en quoi la rupture du Japon avec les taux d'intérêt négatifs peut être importante. Avec une dette de 260% de son PIB, est-ce que le Japon risque la faillite s'il remonte trop ses taux d'intérêt? Nous verrons que non, car le Japon ne craint strictement rien de ce côté-là, car c'est un des pays les moins endettés au monde en réalité. Est-ce la crainte de l'inflation qui fait peur à la banque centrale japonaise? Pas certain, puisque le Japon recherche désespérément de l'inflation depuis près de 30 ans maintenant, et je vous explique pourquoi juste après. Enfin, pendant que l'on parle des taux d'intérêt et des banques centrales, sachez que la Suisse est la première grande économie à baisser son taux d'intérêt directeur cette semaine également. Fichtre, on n'y comprend plus rien! Les cycles économiques seraient donc désynchronisés maintenant dans les grandes économies du monde? Bon allez, j'arrête de vous embêter, rentrons dans le cœur du sujet. Commençons par rappeler pourquoi le Japon n'a pas de dette bien que son taux d'endettement affiché soit de 260% du PIB. Le secret, c'est ce graphique dans lequel on apprend que seulement 7% de la dette japonaise est détenue par des étrangers. Cela implique que plus de 90% de la dette japonaise est détenue par des Japonais. Donc pour un PIB de 4200 milliards, la dette extérieure du Japon est d'environ 300 milliards. Oui, mais attention, car la position extérieure nette du Japon est d'environ 70% du PIB. Cela signifie que le monde doit au Japon l'équivalent de 70% de son PIB, car le Japon fait beaucoup d'investissements à l'étranger. Du coup, le monde doit au Japon dans les 3000 milliards de dollars. Donc, 3000 milliards de créances moins 300 milliards de dettes extérieures, vous avez compris, le monde doit dans les 2700 milliards de dollars au Japon. Le Japon est donc tout sauf endetté. Et là, vous vous demandez tout de suite, mais pourquoi est-ce que ça ne compte pas les 93% de dette interne? Pour une raison simple, si on parle de l'endettement du Japon et que ce sont les Japonais qui se doivent de l'argent entre eux, peu importe les montants puisque cela revient à dire que la créance est dans la poche droite des Japonais et que la dette est dans leur poche gauche. Donc, quand on fait le bilan de ce qu'il y a dans le pantalon, ça fait zéro. La situation de la France est très différente car la position extérieure nette est de moins 30% du PIB, soit une dette de 1000 milliards de dollars envers le monde, et que la dette nationale est détenue à environ 50% par des étrangers. Donc la dette totale extérieure de la France est d'environ 2750 milliards dans le rouge. Et forcément, à la fin de l'année, c'est pas la même ambiance. Mais oui, et je réponds à votre question que vous êtes déjà en train de vous poser, la dette au Japon est créée par l'État, mais elle est bien remboursée par la population. Alors forcément, quand l'État dépense mal et qu'il n'y a pas de retour sur investissement, ce qui est assez régulièrement le cas, le pays s'appauvrit puisqu'il gaspille ses ressources. Mais, et c'est une énorme différence, une dette interne est payée au moment de son émission, tandis qu'une dette externe est payée au moment de son remboursement. Et oui, prenons une image simple. Quand papa va boire sa fiche de paye au bar du coin, ce qui est une image pour illustrer un mauvais investissement, vous en conviendrez, qui fait du bien sur le coup, mais qui a de lourdes conséquences à long terme. Sa famille s'appauvrit le soir même, puisque l'argent n'est plus là. Mais quand papa emprunte l'argent pour aller picoler, sa famille va s'appauvrir lorsque le créancier va venir taper à la porte pour demander le remboursement du prêt. Tout ça pour vous expliquer que la dette du Japon est derrière elle, car c'est une dette interne. Pour aller au bout de l'histoire, le Japon a choisi de payer sa dernière grosse crise financière des années 90 par l'émission monétaire, ce qui revient à dire qu'ils ont étalé la claque sur 30 ans. Et cela nous emmène sur le second point avec le Japon, l'inflation. Certains pensent que l'inflation inquiète le Japon. Mais le Japon ne craint pas spécialement l'inflation, bien au contraire, car la Banque centrale du Japon a un objectif de 2% d'inflation qu'elle cherche à atteindre depuis, des décennies. Quant au poids de la dette, qui est censé augmenter si le Japon augmente ses taux, cela n'a pas de sens, car si le Japon paye plus de taux d'intérêt, cet argent ira à 93% dans les poches des Japonais. Donc pas de souci non plus quand on fait la comptabilité du pays en termes de richesse. Par contre, il y a quand même quelque chose qui cloche au pays du soleil levant, c'est son taux de change. Depuis 2021, la valeur du yen a chuté de 30% face au dollar et à l'euro, grosso modo. Si on regarde le taux de change yen-dollar au regard de l'inflation et des parités de pouvoir d'achat grâce à Nestor, notre outil d'assistance à la gestion libre en ligne, on s'aperçoit que le yen s'est largement décoté face au dollar ou à l'euro. Et là, ça pose quand même pas mal de questions. Faire chuter votre monnaie face aux monnaies qui jouent dans la même cour que vous, cela s'appelle une dévaluation compétitive. En gros, vous sacrifiez votre monnaie, et donc le pouvoir d'achat de votre population, mais ça a le mérite d'attirer à vous les industries des pays avec lesquels vous êtes comparables, car produire chez vous pour exporter est devenu bien plus rentable. En gros, le Japon essaierait-il de prendre les usines allemandes et américaines ? Eh bien, oui et non, ça dépend comment on voit les choses. Si le yen s'est cassé la figure, c'est parce que les USA et l'Union européenne ont remonté leur taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, mais que le Japon n'a pas suivi le mouvement. Il a gardé ses taux à zéro. Alors on peut accuser le Japon d'avoir dévalué sa monnaie, mais on peut aussi considérer que ce sont les USA et l'Union européenne qui ont fortement réévalué leur monnaie contre le yen, qui n'a pas les mêmes besoins économiques. D'autant que le Japon exporte de plus en plus vers la Chine. Il est donc défendable de dire qu'il cherche à réaligner sa monnaie sur une compétitivité avec la Chine. Mais quand même, aujourd'hui, on peut comprendre que les USA et l'Union européenne ne soient pas contents, car c'est bien leurs usines qui partent au Japon. Il y a donc très probablement un jeu géopolitique qui se joue à l'échelle mondiale autour du yen, dont je n'ai évidemment pas les tenants et les aboutissants, faute d'être dans les réunions des banquiers centraux du monde. Par contre, on peut ajouter des pièces au puzzle. Comme vous le savez, les Américains en ont marre de payer pour financer la défense militaire de leurs alliés. Avec Trump, le message est clair, l'OTAN va devenir payant car l'oncle Sam, c'est pas l'armée du salut. Eh bien, les USA avec le Japon, c'est un peu la même chose. Comme le Japon fait partie des pays vaincus de la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu en contrepartie l'interdiction constitutionnelle de disposer d'une armée offensive. Il y a donc un rapport de protection-protégé qui s'est établi entre les USA et le Japon. Mais avec le temps, les USA encouragent le Japon petit à petit à monter ses dépenses militaires pour que ça leur coûte moins cher. Les conservateurs japonais sont donc aussi enclins à réarmer le Japon pour assumer sa propre défense. L'ancien ministre Shinzo Abe, mort assassiné en 2022, a été un grand promoteur dans la durée du réarmement du Japon face à la Chine. Et depuis, le sujet est compliqué au Japon, mais il avance quand même dans cette direction. Du coup, on peut se dire que les USA qui profitent de la désindustrialisation allemande tolèrent peut-être un peu mieux la dévaluation compétitive du Japon, sous condition que le Japon en profite pour développer son industrie de la défense ou ce genre de choses. Dans le fond, je ne sais pas, mais ce que je veux vous montrer, c'est que la faiblesse du yen japonais est en lien avec de nombreuses considérations géopolitiques dans notre monde qui change si vite. Donc, il faut rester prudent. En tout cas, le marché japonais est à la fête depuis 2020 et j'en suis très content, car on avait recommandé le Japon dans une vidéo publiée le 16 décembre 2020.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le Japon a démarré un marché haussier depuis fin 2014 qui lui a permis de dépasser ses plus hauts du début des années 90. Et là, lorsque je vous montre ce graphique historique du Topix, l'indice phare japonais, vous vous dites sûrement que j'ai dû péter les plombs quelque part. Laissez-moi vous démontrer ce que j'avance en moins de 10 minutes. Cela vous permettra également de comprendre pourquoi le Japon, qui est réputé le plus endetté des pays riches au monde, n'a en réalité pas de dette.
On avait même recommandé aux lecteurs de ma lettre d'investissement que je corrige avec Didier Darcet d'investir dans les actions japonaises en mai 2019. Et ça s'est plutôt bien passé parce qu'on avait spécialement recommandé le Topix plutôt que le Nikkei, car le Topix est tourné vers l'économie intérieure du Japon, tandis que le Nikkei est tourné vers l'extérieur. D'ailleurs, si vous voulez être au courant des prochaines tendances que nous identifions avec Didier Darcet, vous pouvez vous abonner à notre lettre. L'idée de cette lettre est simple, un dossier macro présenté par Didier, un dossier pratico-pratique pour saisir des opportunités d'investissement régulièrement, et enfin, les deux portefeuilles de Didier Darcet, le rentier et l'opportuniste. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Donc aujourd'hui, ce qui semble plutôt bien parti, c'est de parier sur la hausse du yen, car les USA risquent de siffler la fin de la partie si le Japon leur prend trop d'usines. Et cela signifie un retour à la moyenne du yen. Pour les abonnés à ma lettre, allez voir le numéro d'octobre 2018 où je vous explique comment calculer les points de retour à la moyenne sur des monnaies. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En tant que fins observateurs que vous êtes, vous avez aussi remarqué que la Suisse est le premier pays parmi les grandes économies à avoir baissé son taux d'intérêt directeur de 1,75 à 1,5%. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'inflation n'a pas été un problème grâce au franc fort, mais qu'aujourd'hui, l'inflation n'est plus une menace. La BNS, la Banque Nationale Suisse, a donc décidé d'abaisser le taux d'intérêt afin de soulager la pression du franc fort sur l'industrie suisse. Donc, le but du jeu ici, c'est que le franc suisse baisse un peu par rapport à l'euro et au dollar, car il n'a cessé de monter en flèche depuis 2021. Bon, après, il faut garder à l'esprit que structurellement, de toute façon, le franc suisse monte contre l'euro et le dollar, car la gestion des finances publiques n'est pas la même et la compétitivité non plus. Mais pour l'heure, la BNS essaie de faire en sorte de modérer la hausse du franc suisse contre l'euro afin de laisser le temps à ses entreprises d'augmenter leur compétitivité. Mais au-delà des petits problèmes de riches de la Suisse, ce qu'il faut retenir, c'est que l'on constate bien un début de désynchronisation entre les grandes économies comparables. Reste à voir ce que feront la Fed et la BCE, car la réponse n'est pas du tout évidente avec l'Allemagne et la France en récession d'un côté, et de l'autre la Suisse et les USA en croissance. Sachant que l'on dispose de moins en moins d'informations venant de la Chine et des BRICS dans une période où les grands équilibres se réorganisent, on ne risque pas de manquer de choses à se raconter sur grand angle. Un baromètre très intéressant à conserver sous la main pour avoir une idée d'où va le monde reste l'or. Car c'est le seul actif monétaire qui fait encore le lien entre toutes les économies du monde. Et c'est bien sûr sa grande force depuis 5000 ans. Mais alors, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que l'or monte autant en ce moment ? Eh bien pour le savoir, allez voir cette vidéo où je vous explique la relation entre l'or et le sujet de la dette américaine qui est un sujet monétaire compliqué, et bien sûr de la dette européenne qui est un problème bien plus grave. Vous comprendrez également le lien entre le prix de l'or et les perspectives économiques plutôt bonnes en Chine.